curieux sont impatients. Depuis des mois, on parle dans les cercles les plus populaires de la capitale de cette création à venir. Le concert de ce soir s'annonce absolument grandiose. La publicité faite autour de cet événement dépasse l'entendement. La presse, les badauds, les mélomanes et autres compositeurs, tous ne parlent que de ça. Le pas pressé, Liszt gagne sa place. Il a eu la chance de tirer le gros lot. Un siège au balcon. Entouré de certains des personnages les plus importants du pays, le jeune homme ne fait pas attention à ses voisins. Il ne contemple rien d'autre que la scène. Voilà qu'enfin la star tant attendue s'avance sur le podium, au milieu des autres musiciens. Cet homme s'appelle Hector Berlioz. En France, pense des cicatrices béantes, il s'apprête à entrer dans l'histoire et à marquer de son empreinte l'art musical. Publicité autour de sa nouvelle œuvre intitulée « La symphonie fantastique ». Berlioz l'a plus subi qu'orchestré. Le jeune homme s'est totalement laissé déborder par les événements, pris dans le tourbillon de l'histoire et de la notoriété récente. Franz Liszt, lui, trépigne d'impatience. Il n'est pas le seul. En observant le reste de la salle en contrebas, il reconnaît certains des compositeurs parmi les plus influents de son temps. C'est notamment le cas de Spontini, qui a spécialement fait le déplacement à Paris pour voir le show. La pression sur les épaules de Berlioz doit être maximale. Autour de lui, 130 musiciens prêts à en découdre. Mais le héros du soir est absorbé par une seule chose, l'assistance. Son regard de feu, scintillant, ne cherche qu'une personne, une femme. Harriet Smithson. Cette jeune comédienne irlandaise ne quitte plus les pensées du musicien, et ce, depuis des années. Liszt le sait. En observant l'artiste qu'il admire, sur le point de jouer son destin, il ne peut s'empêcher d'être partagé. L'amour est-il un sentiment qui peut mener un homme au bord de la folie? Alors même qu'il s'apprête à devenir, s'il franchit le cap de cette soirée tant attendue, l'un des plus brillants compositeurs de sa génération. Ah, visiblement, la réponse est oui. Harriet Smithson, celle qui n'a eu de cesse de rejeter Berlioz au point de refuser de lire ses missives enflammées, n'est pas présente pour voir ce qui vient. Mais lui en a pris. Dès les premières notes, la salle s'enflamme. Ce soir, il se passe quelque chose au conservatoire. Berlioz est en train de révolutionner son art. Abenec, qui dirige l'œuvre, est estomaqué par la puissance de l'ensemble. Dans les traversées du balcon, Liszt est envoûté par ce qu'il découvre. La déclaration de Berlioz à son amour impossible est démesurée, aux frontières du bizarre et du paranormal. Beethoven s'est détaché des conventions d'écriture. Berlioz les écrase, ne compte que l'expression de ses sentiments. Dans ce monde et ses méandres, la rationalité n'existe plus. Les musiciens tentent de s'en sortir. Les premières répétitions ont été si catastrophiques que la première, initialement prévue au Théâtre des Nouveautés, a été annulée. Ils ont jugé, de prime abord, l'œuvre trop éloignée des standards habituels. Mais ce soir, le génie les habite aussi. Cette soirée est comme un exutoire, un exorcisme collectif. Bien plus que les atermoiements sentimentaux du fabuleux Berlioz. C'est la ville de Paris tout entière qui relâche la pression. Celle des heures. Celle d'une nouvelle révolution tout juste terminée. Les Bourbons, chassés, ont laissé la place à de nouveaux maîtres, nés dans les cendres. Le pays s'apprête à prendre un nouveau départ. Mais tout comme la symphonie fantastique de Berlioz, cela s'annonce aussi fantasque que bizarre. Dernière note, le silence, puis le triomphe. Berlioz est assailli par de très nombreuses salves d'applaudissements. Par 5 ou 6 fois, la salle se dresse pour le féliciter. Liszt n'en revient pas. Il est totalement subjugué, lui aussi, par ce que le Figaro appellera le lendemain dans ses colonnes une bizarrerie la plus monstrueuse qu'on puisse imaginer. L'œuvre est en réalité bien plus que cela. C'est un chef-d'œuvre si novateur qu'il relève de l'unique. Berlioz s'est transcendé pour offrir au monde une pépite. Franz Liszt n'a qu'une obsession, partir à la rencontre de son homologue. Au milieu d'une foule compacte et pleine de vivats, le jeune pianiste tente de se frayer un chemin. Il a toutes les peines du monde à gagner les premiers rangs de l'assemblée. Alors que Berlioz s'apprête à quitter la scène pour regagner la torpeur des coulisses, Liszt parvient à le rattraper. « Monsieur, monsieur, je vous en prie, acceptez de dîner chez moi ce soir. » La demande est aussi impromptue qu'improvisée. Berlioz connaît Liszt, il s'apprécie. Pourtant, après une telle soirée de triomphe, il n'a qu'une envie, être tranquille. Mais les yeux de son jeune acolyte sont si luisants qu'il cède à son invitation. La salle finit par se vider et le duo se retrouve bientôt à marcher dans les rues de Paris. Le pianiste n'a pas quitté son petit nuage. Il a encore la tête dans les notes extraordinaires de son compère. En passant à côté du Louvre, un des symboles les plus vivaces de l'ancienne monarchie, Liszt frissonne. La chute des Bourbons est encore dans toutes les mémoires. Ce soir, le jeune musicien a pu chasser les souvenirs des heures du mois de juillet de son esprit pour la toute première fois. Une tonne de questions lui brûle les lèvres. Bientôt, il ne peut plus les réprimer. Quelles ont été vos influences pour écrire ce chef-d'œuvre ? L'expression de Berlioz change du tout au tout. Son visage s'illumine. Des chants d'église de son enfance, au rythme de Beethoven, ses explications, dans l'obscurité parisienne, sont saisissantes, révélatrices de son travail. Et puis, il parle d'Ariette, évidemment, cette muse qu'il a rejetée. Une histoire d'amour à sens unique serait-elle le moteur de cette création que certains jugent géniale, alors que d'autres s'égosillent jugeant que son travail est horrible à écouter. En observant le regard de son ami, Liszt comprend que tout, dans le cadre de la symphonie fantastique, est bel et bien une affaire d'amour et de tourment. Déjà, l'esprit du fantasque compositeur s'égare de nouveau dans sa relation empêchée avec l'actrice irlandaise aux yeux bleus. Tourment. Voilà le mot qui qualifie certainement le mieux la destinée du grand Hector Berlioz et celle de la France. Les trajectoires du musicien et de son pays seraient-elles liées ? C'est à se le demander. Une fois le repas entamé, les discussions autour de la musique et de la situation de la nation vont durer une bonne partie de la nuit. À la fin de cette soirée rocambolesque, le héros prendra le temps d'écrire quelques lignes à son père absent. « Mon cher papa, je n'ai le temps de vous écrire que 6 lignes. Mon concert a eu lieu hier avec un succès extraordinaire. La symphonie fantastique a été accueillie avec des cris, des trépignements. Le public a redemandé la marche du supplice. » Toute la ville de Paris ne parle plus que de Berlioz. C'est parce que la capitale est encore en train de panser ses plaies. Il n'y a pas 6 mois, des barricades ont été dressées et une révolution a éclaté, encore une. Les Bourbons ne sont déjà plus qu'un souvenir lointain. Ils ont été renversés par la population parisienne sans ménagement. C'est en cela que Berlioz s'inscrit dans son temps. Mais qu'est-ce que sa musique révolutionnaire dit de la révolution politique qui vient de se produire ? Retour le 11 septembre 1827. Nous sommes au théâtre de l'Odéon, en plein Paris. Celui qu'on nomme le second théâtre français est plein à craquer, une fois n'est pas coutume. 800 spectateurs, ébahis et silencieux, découvrent une incroyable représentation de Hamlet. La pièce de Shakespeare, vieille de 2 siècles, n'a pas pris une ride. Vestige d'un ancien régime finissant, transformé par la Révolution et le Premier Empire, le théâtre de l'Odéon est devenu un symbole de l'instabilité chronique en France. Louis XVIII, le frère du citoyen Capet, décapité en 1793, a souhaité laisser son empreinte sur le lieu. Cette 3e salle, inaugurée il y a un peu moins de 10 ans, rappelle que ce sont les Bourbons qui sont maîtres à bord du bateau France. Sans enfant, Louis XVIII a laissé la place à son petit frère, Charles X. Depuis son arrivée sur le trône en 1824, il ne cesse de jouer avec le feu. Alors que le peuple cherche à obtenir plus de liberté et que les idéaux révolutionnaires ne sont pas loin dans les esprits, le souverain pousse pour remettre au centre du jeu l'absolutisme instauré par ses ancêtres. Cela crispe de plus en plus une bonne partie de la société. Mais qu'importe. Ce soir, pas de politique. La bonne société des littéraires et des musiciens est venue voir une pièce de théâtre. Dans les travées, Dumas et Hugo parlent bruyamment. Non loin, Gérard de Nerval fronce les sourcils. Concentré, il n'aime guère ses chahuts partout dans l'assistance. Plus loin, un jeune homme dont la musique peine encore à conquérir la scène française et européenne vient de s'asseoir. Hector Berlioz est plein de potentiel. Il est aussi charismatique. Lui dont le style évoque le romantisme en vogue dans les cercles artistiques et culturels parisiens. Voilà qu'enfin la salle est gagnée par la torpeur. En quelques instants, Shakespeare semble sortir de sa tombe. Hamlet est l'un de ses plus grands succès. Sous la direction de Thomas Sauvage, une troupe de comédiens anglais est venue offrir à la France l'un des chefs-d'œuvre du théâtre britannique. D'emblée, une des comédiennes crève l'écran, dès les premiers échanges. Une jeune femme aussi pâle que la mort qui déclame son texte avec une vigueur teintée d'émotion. Ophélie. L'un des personnages de la pièce est incarné par une jeune Irlandaise. Elle s'appelle Harriet Simpson. En quelques secondes, elle bouleverse l'existence d'Hector Berlioz. La première est un succès phénoménal. Le musicien qui ne connaissait pas Shakespeare, Hamlet et encore moins la troupe d'acteurs est emporté par le récit et par la performance de cette jeune actrice dont il tombe éperdument amoureux. Pourquoi? Comment? Il ne peut pas l'expliquer. Il lui est impossible de mettre des mots sur ces sentiments qui s'immiscent avec force et fracas dans sa poitrine. Cette lame de fond emporte toute l'assistance qui est estomaquée, réserve à la comédienne et à sa troupe un véritable triomphe. Dumas, de Nerval, Hugo, tous sont conquis. Ce n'est pas sans raison. La pièce parle de vengeance. Le personnage du prince Hamlet doit punir l'assassinat de son père, retrouver les coupables. Pour réussir, une option, simuler la folie. Mais au bout du bout, le spectateur en vient à se demander dans quelle mesure il n'est pas réellement devenu fou. N'est-ce pas à l'image de la France ? Ce pays passé par l'absolutisme, puis par la Révolution et l'Empire, avant de retomber sous la coupe des rois. Le tout en moins de 30 ans. N'est-ce pas de la folie que de traverser tant de tempêtes ? Berlioz est loin de ses préoccupations. Ses mots frénétiquement tracés sont sans équivoque. Shakespeare, en tombant sur moi à l'improviste, me foudroya. Je reconnus la vraie grandeur, la vraie beauté, la vérité dramatique. Je vis, je compris, je sentis que j'étais vivant et qu'il fallait me lever et marcher. Plus encore que du génie anglais, c'est devant l'Irlandaise Harriet Smithson qu'il est tombé en pâmoison. Berlioz a l'impression de ne plus pouvoir respirer. Débute pour lui une passion amoureuse, douloureuse et à sens unique. Elle va durer des années. Cela le conduira à la composition de la Symphonie fantastique. Les crispations sont de plus en plus latentes. Il faut dire que la politique consensuelle menée sous le règne de Louis XVIII n'a pas survécu à l'arrivée de son frère sur le trône. Charles X ne s'en cache pas, il est proche des ultras. Ce mouvement radical qui souhaite un retour vers l'ancien régime plus autoritaire. L'aîné des frères, Louis XVI, a pourtant perdu la tête en 1793. Mais la chute définitive de Napoléon Ier en 1815 à Waterloo a rebattu les cartes et permis aux Bourbons exilés de reprendre les rênes du pouvoir. Louis XVIII n'est pas un absolutiste. Il ne se fait pas couronner à Reims comme ses ancêtres. Sciemment, pour éviter de fracturer l'opinion, Ça, c'est difficile à dire. Le monarque a la volonté de rassembler. Les acquis de la Révolution sont conservés. Et ce système hybride, une monarchie constitutionnelle parlementaire, contente une bonne partie du peuple. Liberté de la presse partielle, égalité devant la loi, ce sont les libéraux Richelieu et Decazes qui mènent des gouvernements ouverts jusqu'en 1820. Mais à cette date, tout change. Le duc de Berry, héritier d'une dynastie décidément maudite, est assassiné. Dès lors, un virage conservateur est pris. Les ultras prennent de plus en plus de poids dans les décisions politiques. Lorsque son frère, victime de gangrène, meurt en septembre 1824, le nouveau roi, Charles X, veut marquer le coup. En mai 1825, il se fait sacrer à Reims. La cérémonie est grandiose, mais calquée sur une volonté de compromis entre la tradition et les nouvelles obligations de la monarchie constitutionnelle. Pourtant, personne n'est dupe. Malgré quelques mesures libérales, comme l'abolition de la censure de la presse, ce sont les ultras qui mènent la danse. Les gouvernements sont très souvent marqués de leur empreinte. Mais en 1827, de nouvelles élections permettent aux libéraux de retrouver le pouvoir. Le vicomte de Martignac est appelé aux responsabilités. Le mouvement libéral, lui, prend un essor considérable dans l'opinion. Cela s'explique entre autres par une crise économique très importante, due en partie à de mauvaises récoltes céréalières répétées. Prix élevé des denrées, faillite en cascade, la crise devient bientôt sociale et sociétale. La bourgeoisie, loin des responsabilités, qui n'aime pas ce régime, prend fait et cause contre le roi. On estime qu'il ne joue pas son rôle. Partout dans le pays, la peur gagne les cœurs. En Normandie, une vague d'incendies plonge la région dans un profond sentiment de sinistrose. Au moment où le romantisme et Berlioz s'affirment, la poudrière est sur le point d'éclater. Le semi-libéralisme de Martignac est bientôt renversé. Le roi profite des vacances parlementaires pour tenter un premier coup bas. Le prince de Polignac remplace l'ancien homme fort du pays. Placé par Charles X, il est issu d'une lignée qui rappelle les pires heures passées. Sa mère était la plus proche amie de Marie-Antoinette. Lui-même est un ancien émigré sous la Révolution de 1789. Son gouvernement est composé de personnalités clivantes, notamment le général de Bourmont. Le ministre cité a trahi l'empereur Napoléon Ier au début de la campagne de Belgique en 1815. Le message symbolique envoyé à une partie de la société est catastrophique. Cette nomination dans le dos des chambres est le témoin d'un raidissement net de la politique royale. Les réactions sont vives et sont loin de se limiter à la seule opposition. Prenons l'exemple du grand Chateaubriand. Ambassadeur à Rome, il démissionne en apprenant la nouvelle. D'aucuns crient au coup d'État, mais est-ce vraiment le cas ? C'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, l'année 1830 s'annonce très tendue. Thiers, Carrel et leurs amis libéraux fondent un nouveau journal aux inspirations républicaines, le National. Les idées libérales s'imposent partout. Et Charles X, au lieu de faire profil bas, est bien décidé à s'imposer. Au début du mois de mars, il annonce aux chambres le début de l'expédition militaire d'Alger. Pour réussir son projet d'invasion, il n'hésite pas à brandir une menace face aux parlementaires. Il pourrait bien se passer d'eux et fonctionner grâce à des ordonnances. Le 16 du même mois, lors de l'ouverture de la session parlementaire, l'adresse des 221 met le feu aux poudres. Le texte exprime avec force la défiance des libéraux, majoritaires face à la politique royale. La réaction du souverain ne se fait pas attendre. Le lendemain, le Parlement est mis en vacances de force pour 6 mois. La nouvelle attaque du roi contre les élus passe mal. On reparle de ce coup d'État. C'est au cours de ce printemps marqué par une grande instabilité que le duc d'Orléans, un certain Louis-Philippe, commence à émerger dans l'opinion. Le 31 mai, lors d'une fête au palais royal dans lequel il réside, une foule en colère pénètre dans ses jardins. On reparle de coup d'État. C'est au cours de ce printemps marqué par une grande instabilité que le duc d'Orléans, un certain Louis-Philippe, commence à émerger dans l'opinion. le 31 mai, lors d'une fête au palais royal dans lequel il réside, une foule en colère pénètre dans ses jardins. Pour les calmer, le duc apparaît au balcon. Il est acclamé. Un début d'émeute éclate. Dès lors, certaines figures politiques d'importance considèrent sa popularité avec intérêt, notamment Gérard ou Talleyrand. Le roi Charles X, lui, cherche à reprendre la main. Le 16 mai, il dissout la Chambre des députés. De nouvelles élections ont lieu, mais Charles X se prend une véritable dérouillée. L'opposition est renforcée. Le monarque n'a plus le choix. Il doit passer en force. Début juillet, Alger est prise. Charles X sent qu'il peut faire basculer la situation à son avantage. Mais il se trompe. À la fin du mois, il prépare un coup terrible. Des ordonnances réduisent considérablement les libertés. Suspension de la liberté de la presse, dissolution de la Chambre des députés, tout juste élue et jamais réunie en session, restriction du corps électoral en excluant une bonne partie de la bourgeoisie, réduction du nombre de députés, nomination d'ultra au Conseil d'État. En bref, un véritable coup de force. Ces ordonnances doivent être publiées le 26 juillet par voie de presse. Mais le principal ministre, Polignac, sent bien que tout peut basculer. Il attend le tout dernier moment avant de le faire et d'informer la population. Et là, tout va très vite. En un rien de temps, Paris s'embrase. Partout, on ne parle plus que de barricades et de révolution. Juillet 1800.